Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 13 juillet 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, Laurent Boutchibaruta, ancien préfet de Gikongoro au sud-ouest du Rwanda, a passé sa première nuit en prison après sa condamnation hier par un tribunal de Paris. En Éthiopie, première réunion du comité gouvernemental sur la paix au Tigré. Le président américain Joe Biden est arrivé en Israël pour le début de sa visite au Moyen-Orient. État d'urgence au Sri Lanka après la fuite du président aux Maldives. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Laurent Boutchibaruta, ancien préfet de Gikongoro, au sud-ouest du Rwanda, a passé sa première nuit en détention après une condamnation à 20 ans d'emprisonnement pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité par la cour d'assises de Paris mardi. Notre correspondant Jean Damasen Manishimwe revient sur ce verdict et ce qui l'a motivé.
Des trois chefs d'accusation qui pesaient contre Laurent Boutchibaruta, la cour a rejeté la culpabilité comme auteur du génocide, estimant que l'ancien préfet n'a jamais été sur les lieux de massacre au moment des faits. Par ailleurs, la cour l'a totalement acquitté sur tous les crimes commis à l'église de Kibero et à la prison de Gikongoro. À ce propos, les jurés ont donné raison à Laurent Boutchibaruta, qui avait précédemment indiqué à la cour qu'il n'a eu connaissance du massacre des Tutsis dans ces lieux que deux jours après. Par contre, la cour a retenu la culpabilité du préfet pour complicité de génocide, de crimes contre l'humanité à l'école de Murambi, à l'église de Kianika et de Kadoura, ainsi que sur les barrages routiers dans divers endroits de la préfecture. La cour a soutenu les arguments de l'accusation selon lesquels, en tant qu'autorité suprême de sa préfecture, Boutchibaruta disposait des informations sur le plan d'extermination des Tutsis dans les lieux surcités. Avant de se retirer pour le délibérer mardi matin, la cour a donné la parole à l'accusé qui a préféré destiner un message aux rescapés du génocide, indiquant qu'il est hanté depuis 28 ans par un remords de n'avoir rien fait pour secourir les Tutsis. Il a précisé tout de même qu'il n'a jamais fait partie des tueurs, une compassion qui semble avoir joué en sa faveur auprès de la cour, car à 78 ans, Boutchibaruta risquait une réclusion à perpétuité telle que requise initialement par l'accusation. Jean Damasen Manishimwe à Paris pour VOA Afrique.
Dans l'est de la RDC, au moins 9 civils ont été tués mardi soir dans 2 attaques distinctes attribuées au groupe des forces démocratiques alliées dans le Nord Kivu et l'Ituri. Une attaque a fait 6 morts à Beniville, agglomération du Nord Kivu de près de 400 000 habitants dans le quartier Rwangoma, situé à 1 km du quartier général de l'armée congolaise. L'autre attaque a eu lieu dans la chefferie de Boga, dans la province de l'Ituri, où des ATF sont également actifs. En Éthiopie, le comité chargé de mener les futures négociations de paix avec les rebelles de la région du Tigré s'est réuni pour la première fois hier mardi. Les détails avec Claire Morin-Jibou.
Cette réunion a été confirmée par Redouane Hussein, le conseiller à la sécurité nationale du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le comité du choix de la paix a tenu sa première réunion, a tweeté M. Redouane, qui a précisé que les discussions seront menées sous l'égide de l'Union africaine. Les 7 membres de ce comité, présidés par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen, se sont penchés sur diverses questions techniques. Le ministre de la Justice, le directeur du service du renseignement et le vice-président de la région de l'Amara font partie de ce comité. Abiy Ahmed a pour la première fois évoqué à la mi-juin de possibles futures négociations de paix avec les rebelles du Tigré, avec qui le gouvernement fédéral est entré en guerre en novembre 2020. Mais aucune date n'a été fixée pour ces négociations et le gouvernement et les rebelles du Tigré n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'identité du futur médiateur.
Les présidents tchadiens et nigériens ont promis aujourd'hui à N'Djamena de tout faire pour revitaliser la force anti-djihadiste conjointe du G5 Sahel après le départ du Mali et signer un accord de coopération sécuritaire dont rien n'a filtré. Le Nigérien Mohamed Bazoum en visite chez son homologue et voisin président de transition Mahamat Idriss Déby Itno a également éludé une question sur le détail du redéploiement à venir dans son pays des forces françaises de l'opération Barkhane poussée hors du Mali par la junte au pouvoir. La décision du retrait du Mali est un épisode qui va être dépassé. Il y aura bientôt une réunion entre les quatre autres pays alliés dans le G5 Sahel, Tchad, Niger, Burkina Faso et Mauritanie pour faire en sorte que le G5 soit viable, a martelé M. Bazoum lors d'une conférence de presse. Les ministres français des Affaires étrangères et des Armées se rendent demain jeudi et vendredi au Niger pour redessiner la stratégie de la France au Sahel après le retrait des troupes françaises au Mali, alors que les États côtiers d'Afrique de l'Ouest sont confrontés à la menace croissante de groupes armés islamistes. Le Niger, où sont attendus jeudi soir Catherine Colonna et Sébastien Lecornu, va devenir la plaque tournante de l'opération militaire française dans la région, avec un millier d'hommes basés à Niamey, ainsi que des avions de combat, des drones et des hélicoptères. Les coups d'État de ces derniers mois au Mali, au Tchad et au Burkina Faso ont fragilisé les alliances de la France avec ses anciennes colonies, renforcé l'emprise des milices djihadistes dans la région et ouvert la voie à une influence accrue de la Russie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a entamé en Israël une visite de 3 jours au Proche-Orient. Il a défendu l'intégration d'Israël dans la région et réaffirmé l'engagement inébranlable des États-Unis à ce pays allié. Le point avec Mohamed Oumfa.
Nous allons continuer de faire avancer l'intégration d'Israël dans la région, a déclaré Joe Biden sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, répétant l'engagement inébranlable des Américains pour la sécurité d'Israël. Il a indiqué qu'il s'apprêtait à recevoir des informations sur les capacités de défense antimissiles israéliennes, mais aussi un nouveau dispositif de riposte laser contre les drones. Il s'agit d'une visite historique car elle témoigne du lien indissoluble entre nos deux pays, a déclaré le premier ministre israélien Yair Lapid, disant vouloir discuter avec Joe Biden du besoin de restaurer une forte coalition mondiale pour stopper le programme nucléaire de l'Iran. Le gouvernement israélien espère aussi que la tournée de M. Biden permettra de donner une impulsion à une normalisation avec le Royaume saoudien. En effet, après Israël et les territoires palestiniens, le président américain se rendra à Jeddah en Arabie Saoudite où il rencontrera près d'une douzaine de dirigeants régionaux dont le prince héritier Mohamed Ben Salman.
Au Sri Lanka, des manifestants ont envahi les bureaux du Premier ministre réclamant sa démission. L'état d'urgence a été instauré après la fuite aux Maldives du président Gotabaya Rajapaksa. Les détails avec Nani Talani.
Des milliers de manifestants ont pris d'assaut les bureaux du Premier ministre Ranil Wickremesinghe après sa désignation comme président par intérim pour réclamer sa démission. Les forces de l'ordre ont tenté en vain de les repousser avec du gaz lacrymogène et des canons à eau. Un couvre-feu est en vigueur dans la région de Colombo. Les manifestants ont aussi perturbé la télévision publique, demandant que seules les informations relatives aux protestations soient diffusées. À la télévision, le Premier ministre, désigné président par intérim, a demandé à l'armée et à la police de faire le nécessaire pour rétablir l'ordre. Le désormais ex-président Gotabaya Rajapaksa, 73 ans, a quitté Colombo avec sa femme et 2 gardes du corps. Le Parlement doit élire dans les 30 jours un député qui exercera le pouvoir jusqu'à la fin du mandat en cours en novembre 2024.
Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a accusé aujourd'hui Moscou d'avoir déplacé de force jusqu'à 1,6 million d'Ukrainiens vers la Russie, dénonçant une opération délibérée pour dépeupler une partie de l'Ukraine. Ce transfert et ce déplacement illégal de personnes protégées est une violation grave de la 4e Convention de Genève sur la protection des civils et c'est un crime de guerre, a-t-il dit dans un communiqué. La Corée du Nord a reconnu aujourd'hui l'indépendance des républiques séparatistes pro-russes de Donetsk et de Luhansk dans l'est de l'Ukraine, selon un dirigeant séparatiste et une agence de presse russe. La Corée du Nord devient ainsi le 3e pays au monde, après la Russie et la Syrie, à reconnaître l'indépendance des 2 républiques autoproclamées de la région ukrainienne du Donbass. Et puis, le nombre de candidats en lice pour succéder au Premier ministre britannique Boris Johnson s'est réduit à 6 ce mercredi avec l'élimination du ministre des Finances et de l'ex-ministre de la Santé au terme d'un premier tour de scrutin réservé aux députés conservateurs. L'ex-ministre des Finances est arrivé en tête avec 88 votes devant la secrétaire d'État au commerce extérieur Penny Mordaunt avec 67 votes, puis la ministre des Affaires étrangères Liz Truss avec 50 selon les résultats annoncés par Graham Brady, le responsable du comité qui organise le scrutin. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Le directeur général de la compagnie aérienne Air Sénégal, Ibrahima Kane, a été limogé après plusieurs récriminations des passagers ces dernières semaines sur la qualité du service. Monsieur Kane, en poste depuis avril 2019, a été remplacé par Eladj Badarafal, un pilote et conseiller au ministère des Transports aériens. Ce remplacement est intervenu hier à l'issue d'une réunion du conseil d'administration. Au Ghana, l'inflation s'est accélérée à 29,8% en juin contre 27,6% en mai. Les prix des biens importés ont augmenté plus que ceux produits localement pour le troisième mois consécutif. Le transport a enregistré la plus forte hausse à 41,6%. Le diesel a connu une inflation de 99,7% et l'essence 69,4% en glissement annuel. Le logement a augmenté de 38,4%, les produits alimentaires de 30,7% et le pain de 44,5%. Pour terminer, aux États-Unis, l'inflation s'est aussi accélérée à 1,3% au mois de juin contre 1,0% en mai. La pression s'accentue sur le président Joe Biden, sommé d'agir pour le pouvoir d'achat des ménages. Cette forte flambée des prix menace la croissance et plombe la popularité du locataire de la Maison-Blanche à quelques mois d'élection de mi-mandat en novembre prochain.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Rouget, bonsoir à tous.
Début ce mercredi des quarts de finale de la CAN féminine Maroc 2022.
Oui, le Sénégal, qui joue son premier quart de finale dans l'histoire de sa participation à cette compétition, affronte la Zambie qui a joué son seul quart de finale de CAN féminine en 1995. Dans le second quart de ce mercredi, le pays hôte, le Maroc, fait face au Botswana demain jeudi. La Tunisie défie l'Afrique du Sud bien avant. On aura droit au choc au Cameroun-Nigeria, qui se présente comme une finale avant l'heure. À noter que les vainqueurs de ces quatre confrontations se qualifieront pour la prochaine Coupe du Monde féminine prévue du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Wayne Rooney revient au DC United.
L'ancien joueur vedette du Manchester United revient à MLS, le championnat nord-américain, pour entraîner le DC United, annonce le club de Washington dans un communiqué. Wayne Rooney arrive en terrain connu, puisqu'il a disputé deux saisons sous le maillot du DC United en 2018 et 2019, inscrivant 23 buts en 48 matchs. L'ancien international anglais a quitté fin juin son poste d'entraîneur de Derby County. En deuxième division anglaise, sa première expérience en tant qu'entraîneur principal. DC United occupe actuellement l'avant-dernière place de la conférence Est avec 17 points marqués en 17 matchs. L'équipe de Washington a perdu 7-0 vendredi contre Philadelphia Union.
Une question à présent, l'Afrique va-t-elle perdre une chance de médaille aux mondiaux d'athlétisme?
Les espoirs du continent dans l'épreuve de 100 mètres reposent sur les épaules de Ferdinand Omanyala. Mais problème, jusqu'à ce mercredi matin, le sprinteur kényan, détenteur du record d'Afrique, a annoncé qu'il était toujours dans l'attente de son visa pour les États-Unis, qui accueillent ces mondiaux en Eugene, dans l'Oregon, du 15 au 25 juillet. Triste de n'avoir pas pu encore partir pour l'Oregon alors que la course est dans deux jours. Retard de visa a posté sur son compte Instagram l'athlète de 26 ans. Les séries du 100 mètres doivent débuter ce vendredi à 12h30 local. Ferdinand Omanyala a signé en mai la troisième meilleure performance mondiale de l'année, 9 secondes 85 centièmes sur 100 mètres, 8 mois après avoir établi un nouveau record d'Afrique en 9 secondes 77 centièmes.
Cyclisme, Jonas Vingegaard fait coup double au Tour de France.
C'est un véritable coup de théâtre en haute altitude. Le Danois de l'équipe Jumbo a remporté la 11e étape et endossé le maillot jaune de leader. Le vainqueur en titre, le Slovène Tadej Pogačar, cède ainsi son maillot jaune dans la plus haute arrivée en altitude de ce tour, à 2413 mètres. Au classement provisoire, Pogačar a reculé à la troisième place à 2 minutes 22 secondes avant l'autre grande étape alpestre menant demain jeudi à l'Alpe d'Huez.
Page de sport VO Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Des crispations de la vie politique en Côte d'Ivoire, c'est demain que se tient la rencontre entre le président Alassane Ouattara et ses deux prédécesseurs, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Comment est perçue cette rencontre et quelles sont les attentes des chapelles politiques, de la société civile et du citoyen lambda? Élément de réponse dans ce dossier de notre correspondante à Abidjan, Delphine Boïse.
La rencontre entre les trois grands de la politique ivoirienne, à savoir Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, est prévue ce jeudi. Et c'était l'une des recommandations du dialogue politique tenu il y a 3 mois. Et c'est la rencontre dite de tous les espoirs pour une sortie définitive et durable de la crise dans le pays. Justin Katina Kone, porte-parole du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le nouveau parti de Laurent Gbagbo, estime que ça sera un pas de géant dans le renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation.
Pour nous, le fait qu'ils se rencontrent, déjà, c'est un très beau signal qu'ils donnent à la population sur l'état de l'apaisement du climat politique. Mais il y a des questions de fond. Et nous pensons que si ces trois-là se penchent aussi sur ces questions de fond-là et trouvent des solutions, il est évident que le pays connaîtra un pas de géant dans le sens du renforcement de la cohésion sociale.
Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA de l'ancien président Henri Konan Bédié, dit attendre avec beaucoup d'espoir sur cette rencontre, non sans évoquer les sujets qui lui tiennent à cœur. Soumaïla Kouassi Brindoumi, porte-parole du PDCI-RDA.
Nous vivons ça avec beaucoup d'espoir et nous avons une série de dossiers qui n'ont pas été vidés par le dialogue politique en pensant que cette fois-ci, l'intérêt du pays va primer et que les problèmes vont se résoudre de manière définitive. Il y a le problème du découpage électoral, le problème de la liste électorale, il faut l'auditer, le problème de l'identification. Et je pense que d'abord, le premier gros dossier, c'est la libération des prisonniers politiques.
La société civile considère le 14 juillet comme tout un symbole. Mahamadou Kouma, coordonnateur national de la Convention de la société civile ivoirienne.
Et comme ils ont choisi le 14 juillet, mais on verra toute la symbolique que ça donne. Les hommes politiques aussi, tout ce qu'ils font a un sens. Tout est calculé. En politique, on ne pose pas de date comme ça.
Pour le citoyen lambda, cette rencontre pourra booster la réconciliation nationale.
Moi, c'est Assiou Jean-Pierre. Je pense que c'est une bonne chose parce que si le pays n'est pas trop ça, donc si ils se mettent ensemble pour dialoguer, pour discuter, je crois que c'est mieux pour tous les citoyens ivoiriens. Bon, on attend que bon, qu'ils nous disent qu'ils sont ensemble, il y a la réconciliation.
Je m'appelle Kwaku Amala. Nous voulons que l'objectif de chacun soit atteint. Nous voulons de cette rencontre que ça soit pour de bon, pour que le pays va de l'avant, pour que la population ait la paix pour de bon.
Ce rendez-vous historique devrait tracer la voie pour des élections libres, démocratiques et transparentes, après toutes les crises post-électorales et tous les drames que ce pays a vécu. Delphine Boïse, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Togo, les autorités partent en croisade contre les grossesses des jeunes filles dans les milieux scolaires. Le gouvernement vient d'adopter un projet de loi visant à renforcer l'arsenal juridique. De Lomé, la correspondance de Kossi Wousou.
Il existe au Togo des textes réprimant les auteurs des grossesses des jeunes filles qui sont encore sur les bancs des écoles. Malgré l'existence d'une loi répressive, le phénomène persiste. Il faut réagir et agir vite, dit Akoda Ayewadan, le porte-parole du gouvernement.
On peut citer des chiffres. Hein. 2020-2021, c'est près de 1747 grossesses en milieu scolaire. Et cette situation n'est plus tenable. Le gouvernement a choisi de renforcer l'arsenal existant. Donc aujourd'hui, on a un projet complet qui va d'abord dans le préventif, ensuite propose un accompagnement et également des sanctions.
Ces intentions sont louables, estime Innocent Diaro Agbeka, président de l'association des parents d'élèves qui a dirigé l'atelier de la validation du projet qui a réuni tous les acteurs de l'éducation.
Le constat de la grossesse en milieu scolaire est vraiment amer. On a constaté que les années passées, on a déchiffré jusqu'à 5000 grossesses. Vraiment, il doit falloir qu'on prenne une position pour pouvoir juguler ce mal qui gangrène la jeune fille togolaise. C'est pour ça que nous avons franchement adhéré à cette décision.
Francis Pedro, un acteur politique, lui, réclame plutôt des actes que des paroles.
C'est maintenant que le gouvernement voit qu'en milieu scolaire, là, il y a trop de grossesses. Je me souviens dans les années 77, le gouvernement du Togo a pris un décret pour envoyer en prison tout enseignant qui engrosse une élève. Et puis après, bon, maintenant que le gouvernement veut faire quelque chose, bon vent, il ne sert à rien de parler. Il faut agir.
Pour Mireille Bossou Souedjede, directrice exécutive de l'association Précieux Trésors de Vie qui mène des actions de sensibilisation sur le terrain, la loi est peut-être nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour juguler le phénomène.
C'est une loi que le gouvernement veut prendre. Nous prenons d'abord ça comme un éveil de conscience pour dire alerte, attention, il se passe quelque chose, il faut qu'on agisse. Maintenant, est-ce que la loi en elle-même protège assez les filles pour qu'elles ne tombent pas enceintes? Je reste quand même un peu dubitative. Je pense à mon niveau que on doit repenser l'éducation sexuelle.
Dodi Kokoroko, le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, a le triomphe modeste et reconnaît aussi que la loi ne pourra pas tout régler. Il nous faut des réponses adaptées face à ces phénomènes. Il faut une véritable révolution des mentalités, a-t-il dit. Kossi Wutsu, Lomé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Le président américain Joe Biden est arrivé en Israël, début d'une tournée au Proche-Orient. Il se rendra en Cisjordanie occupée et en Arabie Saoudite vendredi. Comment est perçue cette visite en Israël? Claire Morin-Jibou a joint Eli Carmon, chercheur à l'université Reichmann près de Tel Aviv.
Pour le moment, c'est vraiment une visite exceptionnelle, très importante sur le plan des relations israélo-américaines, mais aussi sur le Moyen-Orient. Et je crois que même en dépit de la chaleur, la réception a été très chaude. La visite, surtout du président au mémorial de l'Holocauste à Jérusalem, sa discussion avec deux anciennes femmes qui ont survécu le Holocauste a été très émouvant et a pris beaucoup de temps, ce qui montre que le président a fait un effort pour montrer sa sympathie aux victimes du Holocauste.
Alors, beaucoup de discussions sont prévues avec différents membres du gouvernement et le chef de l'opposition, Benjamin Netanyahou. J'imagine que ces discussions vont aborder le programme nucléaire iranien.
Bien sûr, ce n'est pas seulement le programme nucléaire, c'est toute l'agression, l'activité agressive de l'Iran vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis d'autres pays du Moyen-Orient, surtout les pays du Golfe. Et donc, dans ce cadre, la question iranienne sera discutée pour voir s'il y a une solution ou un accord sur le nucléaire, mais aussi sur d'autres questions, par exemple la production de missiles balistiques par l'Iran et aussi d'activités terroristes dans la région.
Autre sujet, bien sûr, la perspective d'une normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël avec la visite samedi du président Biden à Jeddah. Est-ce que cette normalisation a une chance d'arriver, selon vous?
Bien sûr, c'est là aussi dans le cadre de la tentative de former une axe contre l'agressivité de l'Iran. Et on parle déjà d'une progression dans la relation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et ce sera à étapes, c'est-à-dire c'est pas il est bien qu'on aura des relations diplomatiques comme avec, par exemple, les Émirats ou le Bahreïn, mais il y aura des accords sur le plan économique, sur le plan de la relation militaire, et aussi une certaine libération de nos mouvements aérien entre Israël et l'Arabie Saoudite pour utiliser justement ce passage sur l'Arabie Saoudite pour améliorer les relations aériennes entre Israël et le monde en Asie.
C'était Eli Carmon de l'Université Reichmann près de Tel Aviv.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Rockdale, une ville rurale au centre du Texas, abrite la plus grande installation de minage de bitcoins en Amérique du Nord, apportant des emplois et une vitalité dans la communauté. Mais les critiques avertissent que ces nouvelles activités font partie d'une industrie volatile. Un reportage de Dina Michel, la narration est de Rosine Mounezero.
Steve Prout et sa famille ont été durement touchés par la fermeture de la fonderie d'aluminium en 2008 et plus récemment de la centrale électrique. La petite ville du Texas a perdu plus de 1000 emplois, mais une nouvelle industrie est arrivée. La crypto mining, le minage de crypto-monnaies. Rockdale abrite désormais deux centres de données d'extraction de Bitcoin. D'autres villes du Texas voient des opérations minières se développer, surtout après que la Chine a banni cette activité. L'intérêt pour le marché volatile de la crypto-monnaie a grimpé en flèche ces dernières années, même si beaucoup y ont perdu de l'argent. Mais Rockdale est fier d'accueillir les mineurs de crypto. John King, maire sortant de Rockdale.
Nous sommes ouverts aux affaires et n'hésitez pas, venez.
L'extraction de Bitcoin est un processus de résolution des problèmes mathématiques complexes à l'aide d'ordinateurs coordonnés de sorte à vérifier les transactions sur la blockchain. Mais la montée en puissance des usines de crypto-minage aux États-Unis soulève des préoccupations environnementales et financières. Chad Everett Harris.
Ce marché est libéralisé ici au Texas et le gouvernement même l'encourage. Ils offrent des programmes et une formation professionnelle, puis la main-d'œuvre ici est tout simplement incroyable.
Certains habitants admettent qu'ils ne savent pas trop ce qu'est l'extraction de crypto-monnaies. Gary Smith, habitant de Rockdale.
Je ne comprends pas complètement à 100% et je sais que beaucoup de gens sont dans ma situation.
Mais l'extraction de crypto-monnaies a créé des emplois. Certains espèrent qu'elle fera avancer la ville jusqu'à ce que d'autres industries puissent démarrer. Steve Prout, habitant de Rockdale.
À moins que vous obteniez un emplacement pour cette grande production, comme une fonderie d'aluminium, mais dans l'immédiat, on ne voit rien de similaire ces jours-ci que les gens puissent apprécier.
Pendant ce temps, les centres de données d'extraction de Bitcoin de Rockdale continuent de bourdonner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.